nous invite à trouver dans les Bibles blanches, Philippiens, chapitre 3, c'est à la page 772. Maintenant, donc, mes frères et sœurs, Philippiens chapitre 3, mais le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sont mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en moi, en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux. Je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Nous nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je pense que la vie en Europe, la vie en France en ce moment, est à la fois difficile et facile. Nous vivons une culture où même s'il y a du chômage, même s'il y a des difficultés, il y a énormément de richesses. Richesses dans le domaine de la culture, dans le domaine du divertissement, des loisirs, des domaines tels que la technologie, la gastronomie, les transports, et ainsi de suite. Alors ces richesses ne sont pas forcément pérennes, et même si on n'est pas personnellement riche, on vit entouré de ces choses. On en bénéficie. Et en même temps, la vie est difficile. L'ambiance est souvent morose. Il y a beaucoup de dépression. Notre culture, notre nation n'a pas vraiment une vision enthousiasmante de l'avenir. Il y a peut-être la peur de l'appauvrissement. Il y a parfois la peur de l'islam, la peur du conflit social. C'est vrai aussi sur le plan personnel, parce que de plus en plus, la foi dominante entre le pouvoir que chez la population, c'est la foi séculariste, c'est-à-dire une foi athée, matérialiste. Il n'y aurait pas de Dieu. On ne vivrait qu'une seule fois. On naît, on meurt, il n'y a plus rien. Et cette foi-là, cette manière de comprendre le monde, cette croyance-là, parce que elle est bien une foi, cette croyance-là est profondément déprimante, profondément mortifère. Elle enfonce l'homme dans le néant et dans la déprime. Et le seul médicament pour y faire face, apparemment, c'est l'hédonisme, c'est le fait juste profiter au maximum des bonnes choses de la vie, des plaisirs de la vie, des loisirs, la famille, la gastronomie, la sexualité. Et peut-être inconsciemment aussi, c'est aussi votre manière de penser, votre mentalité, votre manière de vivre. Et c'est pour ça que le message de Jésus-Christ est si important. Nous avons un message pour notre culture, pour notre nation, pour nos amis, pour nos voisins. Parce que nous avons une espérance ferme de la vie. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et cette espérance-là change tout. Notre vision de l'avenir est enthousiasmante. Et on peut vivre cette vision aujourd'hui. Notre vision de la vie n'est pas mortifère, mais au contraire vivifiante. Alors ce passage, s'il parle d'une seule chose, il parle de la vie, il parle de l'espérance de la vie en Jésus-Christ. Et c'est une espérance à vivre aujourd'hui. Alors à la fin de notre passage, l'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ou dans une autre traduction qui est peut-être un peu plus claire, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Parce que Paul, par ce passage, veut nous montrer comment tenir ferme dans le Seigneur. La semaine dernière, Paul, dans le passage d'avant, nous a exhortés à nous réjouir dans le Seigneur. Et ensuite, il nous a montré comment on peut le faire. Il nous a montré la base, le fondement de notre joie. C'est le fait qu'on se trouve en Christ, caché en lui, avec sa justice, avec la justice qui vient de Dieu par la foi. Et du coup, en lui, on est acceptable à tout jamais aux yeux du Père. C'est le fondement de notre joie. Et dans ce passage ce matin, l'apôtre Paul veut nous montrer comment tenir ferme dans le Seigneur. Comment tenir ferme dans la durée, parce que la foi n'est pas facile dans la durée. Et encore une fois, Paul leur donne, et donc Paul nous donne, une vision de la vie chrétienne qui est profondément centrée sur Jésus-Christ. C'est ça dont nous avons besoin pour tenir bon. Si Jésus est notre joie, il est aussi notre espérance. Alors, première chose que j'aimerais dire ce matin à partir de ce passage est fixons nos yeux sur Jésus, qui est notre avenir. Donc, c'est notre premier point ce matin. Fixons nos yeux sur Jésus. Qui est notre avenir. Au verset 15, Paul nous dit, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et le mot derrière cette phrase, adoptons cette attitude, est un mot clé dans cette épître. C'est un mot qui renvoie à notre mentalité, à notre manière de penser. Et donc Paul veut parler ce matin à nos intelligences, il veut que nous travaillions nos intelligences. Et si nous avons succombé, peut-être inconsciemment, sans le savoir, à l'athéisme matérialiste de notre culture, il veut que nous changions notre manière de penser. Il y va de notre persévérance dans le Seigneur. Alors dans ce passage, Paul utilise l'image du sport. Il nous invite au stade olympique pour comprendre la vie chrétienne. Il nous donne l'image d'un athlète qui court de tout son cœur vers le but, qui emprunte la dernière ligne droite et qui court vers cette ligne d'arrivée pour remporter le prix, pour être sur le podium. Je trouve ça assez fascinant lorsqu'à la radio ou à la télévision, ils font des interviews avec des athlètes ou avec des sportifs, des hommes, femmes sportifs, des cyclistes par exemple. Ensuite, devant le micro, ces athlètes doivent d'écrire ce qu'ils ont vécu, comment ils ont pensé, comment ils sont préparés d'avance. Et souvent, tout est dans le mental. Pour remporter une étape du Tour de France, il faut qu'un cycliste ne soit pas simplement en bonne forme physique, mais aussi en bonne forme mentale. Il doit vouloir ce prix. Il doit vouloir ce maillot. Il doit, bien sûr, avant, se préparer, se lever de bonne heure tous les matins pour aller s'entraîner. Il doit imaginer l'étape, réfléchir à sa stratégie, son positionnement dans le groupe, et ensuite comment arriver dans la bonne position qu'il souhaite avoir à la fin. Beaucoup est dans le mental. Et c'est un peu comme si l'apôtre Paul est devant le micro, dans cette première section de ce passage, et il nous parle de comment lui pense la course chrétienne, comment il s'y prépare mentalement. Alors on voit ici qu'il fait bien la part des choses. Il sait que dans cette vie, il sera toujours pécheur, toujours enclin au doute. Il n'est pas encore parfait. Il n'a pas encore été rendu parfait par Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il attend la résurrection. Cette résurrection physique, corporelle, qui est l'espérance chrétienne. Il vit cette étape de la course qui va jusqu'à la résurrection. Et il attend cette résurrection corporelle activement, de manière sportive, en oubliant ce qui est derrière et en courant vers l'avant. Verset 13, vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et en fait, ce prix est Jésus-Christ lui-même. C'est le fait d'être avec lui. C'est le fait d'être avec Jésus dans la présence de notre bon Père Céleste pour toujours. Ailleurs, si au début de cet épître, l'apôtre Paul nous a dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. » Alors malheureusement, je pense que dans notre expérience, on n'est peut-être pas aussi tiraillé que l'apôtre Paul. Mentalement, on n'est peut-être pas aussi bien préparé, en tout cas je parle pour moi-même, on n'est peut-être pas aussi bien préparé pour cette étape de la course. Alors quel est votre avis ? Est-ce que vous avez ce même désir, celui de l'apôtre Paul, de vous en aller, de gagner Christ, d'être avec lui. Je lisais avant-hier le témoignage d'un pasteur que mes parents ont connu il y a quelques années, qui est décédé il y a 5 ans. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 62-63 ans à peu près. Et entre le diagnostic, comme quoi le cancer était inopérable, et son décès, ce pasteur a beaucoup médité sur son espérance. Il a mis sur, pas écrit dans un petit bouquin, cette espérance qui découle de la résurrection de Jésus-Christ et notre propre résurrection corporelle en lui. Il a écrit à un moment donné, et je cite, « Voici un domaine où nous, chrétiens, nous avons une opportunité d'être différents et de trancher avec la culture contemporaine. Les contemporains sont obsédés par la guérison et l'extension de la vie physique par tous les moyens. C'est vraiment dommage que nous, chrétiens, avons tendance à les imiter. Lorsque nous parlons de l'espoir, de la guérison, du soulagement de la douleur physique, les contemporains en raffolent. Ils viennent, par exemple, dans nos cultes de guérison avec de grandes attentes. Mais lorsque nous parlons de la gloire qui nous attend de l'autre côté du tombeau, et notre espérance sûre de la vie éternelle, là, ils sont obligés de faire face à la réalité de leur destin éternel. Et au fur et à mesure que le concert de Mark Ashton, donc ce pasteur, avançait, plus sa pensée était centrée sur son espérance. Et à la fin, quand il ne pouvait guère plus parler, il ne disait que, c'est ce qu'il disait à ses amis, à sa femme, presque à la maison. Je suis presque à la maison. Le problème pour nous est que souvent, je pense à moi-même aussi, on est souvent bien chez nous ici, par terre, dans cette vie. Mentalement, on est très attaché à nos biens, à nos carrières, à nos rêves de prospérité, de santé, nos loisirs, plein de choses. On est même attaché à ces choses, même quand les choses ne vont pas tellement bien pour nous, on est quand même attaché à ces choses. Alors comprenez-moi bien, Dieu nous a donné ces choses. Cette physique, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et donc, c'est normal de vivre les pieds sur terre. Et je pense que la spiritualité chrétienne nous permet de vivre avec les pieds sur terre et d'apprécier ces choses à leur juste valeur. Mais elle le fait en nous donnant une espérance, en nous donnant une orientation dans la vie. Elle fixe nos yeux sur notre espérance. Elle fixe nos yeux sur Jésus. Elle nous donne un amour pour Jésus qui nous aide à fixer nos yeux sur lui. Et ça, je pense, a été la prière de Paul au début de cette lettre. C'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques semaines au chapitre 1. Paul a montré sa prière. Il a prié pour que notre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Et la connaissance et l'intelligence dont il parlait sont à mes yeux la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est cette connaissance de Jésus qui nous donne un amour pour lui, qui fait augmenter notre amour pour lui et pour nos frères et sœurs aussi. Parce que comment est-ce qu'on peut préférer cette vie ici-bas à toutes ces choses si on aime Jésus? Ou comment est-ce qu'on peut préférer la vie avec Jésus si on ne l'aime pas? Depuis le début de cette lettre, Paul a essayé de nous enraciner dans la connaissance de Jésus. Lors d'une prédication sur le chapitre 1, je vous ai parlé de fondements, des fondements de gratte-ciel, ces piliers de béton et de fer qui sont enfoncés profondément dans la terre pour aider ces bâtiments, ces buildings à tenir debout. Et Paul essaie de faire de même dans cette lettre. Pour que notre amour augmente, Paul a dit au chapitre 2, il a parlé de l'humilité de Jésus. La gloire de Jésus dans l'humiliation et ensuite dans l'exaltation. Il s'est humilié. Il est devenu un serviteur pour nous servir à la croix. Avant d'être exulté à la plus haute place auprès du Père. Et la semaine dernière, dans le passage d'avant, on a vu cette justice que nous avons en lui. Grâce à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a pris nos péchés à notre place. Et dans l'échange, pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus, il nous a donné la justice de Dieu. Et du coup, nous sommes pleinement acceptables de manière permanente. Dieu nous accepte de manière permanente. Malgré nos hauts et nos bas. Malgré nos réussites et nos manquements. On a toujours l'assurance de cet accueil chaleureux du Père. Et c'est cette connaissance de Jésus, si elle est profondément ancrée dans nos cœurs, qui fait que nous aimons Jésus. On a vu que cette connaissance était la base de notre joie dans le Seigneur. Mais c'est aussi la base de notre espérance en Jésus. C'est pour ça que Paul dit « Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Nous sommes un peu comme des orphelins dans un orphelinat qui, pendant de longues années, n'ont pas connu l'amour d'un père, d'une mère. Et un beau jour, nous avons été adoptés par le parent le plus aimant possible. Alors, les papiers sont signés. Alors, cette adoption est quelque chose de sûr. Elle a déjà eu lieu. Nous goûtons un peu déjà cet amour. Mais en même temps, on attend. On attend de rentrer. Nous sommes en transit. Nous sommes en train d'attendre de rentrer dans notre nouvelle maison. De même, puisque de nous aussi, par la grâce seule, par le moyen de la foi, Jésus-Christ s'est emparé de nous aussi. Et donc, en vertu de ça, parce qu'il s'est emparé de nous, nous courons vers lui. C'est une question de perspective, c'est une question de mentalité. Est-ce que nous allons croire Dieu sur parole? C'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné son Fils. En lui, en Jésus, on est caché en lui. En Jésus, on est devenu la justice de Dieu. Dieu est à nous. Nous sommes à Dieu. Nous sommes en train de rentrer à la maison de notre bon Père céleste. Et on a besoin d'alimenter cette connaissance. Est-ce que vous avez envie d'alimenter cette connaissance de Jésus-Christ, de l'avoir profondément ancrée dans vos cœurs? Parce que plus l'Esprit par la parole enfonce ces piliers de la connaissance de Jésus dans nos cœurs, plus on aura envie de courir vers lui, de courir vers notre prix qui est Jésus. Avant de passer vers la deuxième section, j'aimerais juste dire quelques mots sur les versets 15 et 16, juste en passant. Nous tous, tant qu'ils sont mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Je pense pas que Paul dise ici que ce n'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parce que là, on vient de voir qu'il nous a exhortés de manière ferme à adopter ce point de vue. Mais je pense que ces versets nous disent que si nous voulons vivre dans l'unité, ça c'est un grand thème aussi dans cette épître, si nous voulons vivre dans l'unité, si on veut vraiment annoncer Jésus en tant qu'Église de manière unie, de manière humble, comme des partenaires, justement, on a besoin d'être centré sur cet évangile. Cet évangile de Jésus qui meurt, qui est exalté. Ce Jésus en qui nous sommes devenus la justice de Dieu. Ce Jésus en qui nous allons vivre la résurrection corporelle. On doit être centré là-dessus. Alors, on peut avoir des avis différents sur d'autres points plutôt mineurs. Et avec le temps, Dieu nous donnera des convictions basées sur la parole. L'Esprit nous éclairera. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'être centré sur cet évangile de Jésus, sur la croix, sur la résurrection, sur ce que nous avons en lui. Et si on est centré sur ces choses-là, on peut vivre de manière unie. On peut annoncer joyeusement Jésus de manière unie. Alors, dans la deuxième moitié de ce passage, les versets 17 à 21, Paul contraste deux groupes. D'une part, les ennemis de la croix. Et d'autre part, nous qui avons notre citoyenneté dans les cieux, donc c'est notre deuxième point, mettez toute notre espérance en Jésus. C'est un peu le même thème, parce que Paul veut marteler ce point. Il faut que nous mettions toute notre espérance, toute notre confiance en Jésus. Et Paul reprend le même schéma qu'on a vu au début du chapitre 3. Au début du chapitre 3, il a contré quelques faux enseignants qui voulaient que les Philippiens mettent leur confiance dans la religion centrée sur l'homme plutôt que de la mettre en Jésus seul. Et on voit ce même schéma dans cette deuxième partie. On voit les faux enseignants, ces ennemis de la croix. Alors, de qui est-ce qu'il parle exactement? Alors certains pensent que Paul parle de certains chrétiens qui se sont laissés aller avec le temps, qui se sont compromis sur le plan moral, des chrétiens qui jouaient peut-être avec l'immoralité sexuelle, qui s'adonnaient à la gourmandise, ou qui vivaient pour leur carrière ou leur loisir. Et c'est clair que si nos yeux ne sont pas fixés sur notre espérance, sur Jésus, si nos cœurs ne sont pas comblés de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus, nous allons essayer de nous rassasier, de nous consoler avec de telles choses, dans l'ambition personnelle, dans la gourmandise, dans l'immoralité sexuelle, et ainsi de suite. Si notre amour pour Jésus s'estompe, notre espérance va s'estomper. Et ensuite, le laisser-aller va s'instaurer. C'est une suite logique. Ceci dit, je pense que Paul ici se réfère aux mêmes personnes qu'on a vues au début du chapitre. Je pense qu'il parle de personnes religieuses, de personnes qui voulaient revenir à la loi, aux règles humaines, et surtout aux rites juifs. Des personnes qui mettaient la confiance dans la religion, avec ses rites, avec ses sacrements, avec ses règles, avec ses prêtres, avec ses institutions. Des gens qui mettaient la confiance dans l'identité que la religion humaine peut donner. Tout ça, c'est un peu le propre de la religiosité de l'homme. Et comme nous avons dit la semaine dernière, c'est un danger, un vrai danger. Ça nous écarte de Jésus. Mais plus notre confiance en lui seul, et nous tous, on est concernés par ce danger. On n'est jamais très loin de ce danger. Dans le passage de la semaine dernière, l'antidote à ce danger était la connaissance de Jésus. C'était le fait de savoir qu'en lui seul, par la foi seule, on est déjà pleinement acceptable aux yeux de Dieu. Et ici, l'antidote vient aussi de la connaissance. C'est la connaissance de notre citoyenneté dans les cieux. Une citoyenneté qui est liée, très liée à Jésus. Parce que Jésus, c'est le roi de ce royaume. Nous sommes les citoyens de son royaume. On dit au verset 20, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Alors Paul parle de nos corps. Il dit que nos corps sont des corps de misère. Alors très souvent, surtout peut-être avec l'âge, nous ressentons vivement la misère de nos corps. Alors, il paraît que le processus du vieillissement commence même avec notre naissance, mais c'est bien sûr seulement plus tard qu'on voit les effets. Mais en fait, dans le contexte ici, je ne pense pas qu'il parle tant de notre vieillissement, mais plutôt du péché. La misère du péché dans nos vies, ce péché qui résiste en nous, cette lutte quotidienne que le croyant a avec le péché, notre désobéissance, notre égoïsme qui résiste. Et c'est quelque chose qui peut nous faire déprimer. Même sauvés par la grâce, on lutte avec le péché, on lutte avec cette désobéissance. On lutte avec cet égoïsme. C'est une réalité constante. Et c'est là, quand on voit ça, quand ça nous fait déprimer, qu'on est tenté de revenir à la religion humaine. La religion centrée sur l'homme, sur nos efforts. C'est à ce moment-là que les règles peut-être strictes, paraissent tentantes. On pense peut-être à des lois alimentaires. dans sa pensée que par, parce que nous faisons par ces lois alimentaires qu'on peut se rendre plus pur, ou par les prières toutes faites, par des sacrements, par des prêtres, par des rituels. On cherche des stratagèmes, des raccourcis. Et dans ce contexte, ces faux enseignants, dans ce passage, voulaient revenir à la loi juive, voulaient revenir au rite juif pour donner une certaine assurance aux chrétiens, aux personnes qui avaient déjà mis la confiance en Jésus. Sans doute, ils disaient, voilà, avec ces rites, on est assuré d'être vraiment des enfants de Dieu, vraiment purs, vraiment acceptables aux yeux de Dieu. Mais Paul dit ici que nous, on est déjà citoyens du ciel. Nous attendons un sauveur. Et c'est en ce jour-là, quand il revient, qu'il transformera nos corps de misère par sa puissance. Or, nous n'y sommes pas encore. Mais nous avons déjà le droit de citer. Nous sommes en transit, mais nous avons déjà la citoyenneté. À New York, il y a un musée sur une île à côté de la Statue de Liberté. Et cette île s'appelle Ellis Island. Et c'est là que des milliers d'immigrants ont dû attendre avant de fouler le sol américain au 19e siècle. C'est là qu'ils devaient passer par la douane, ils devaient passer par des visites médicales pour savoir s'ils pouvaient rentrer. Et s'ils étaient malades, ils devaient attendre pour être guéris. Toujours dans la crainte d'être rejeté. Et en effet, certains étaient renvoyés en Europe. Alors ça, c'est pas notre crainte. Nous sommes en transit. On n'est pas encore dans la maison de notre bon Père Céleste. On n'est pas encore ressuscité. On n'est pas encore dans nos corps de gloire avec Jésus. Mais nous avons déjà la citoyenneté. Et ça fait que nous aurons ces corps physiques, corporels, de gloire. Nous avons déjà le passeport biométrique avec la puce insérée dans la couverture qui nous permet de fixer sereinement nos yeux sur ce jour-là. Le jour de la résurrection, le jour de Jésus. Nous avons un avenir, nous sommes un peuple qui a un avenir. Un jour, nous aurons ces corps de gloire. Peut-être pour certains, cette espérance d'une résurrection corporelle, cette transformation de nos corps sonne comme une illusion. Le fait de croire contre toute preuve que tout va quand même aller pour le mieux, comme si on refuse de voir la triste réalité de la vie en face, c'est peut-être le message que notre culture fait passer. Alors l'apôtre Paul est persuadé que cette espérance, notre espérance, est totalement fondée parce que Jésus-Christ lui-même est passé par là. Dans le passage d'avance qu'on a vu la semaine dernière au verset 10, il a parlé de la puissance de sa résurrection. Pour l'apôtre Paul, la résurrection corporelle de Jésus est un fait historique, incontestable, incontournable. Dans l'histoire de l'humanité, il y a un homme, pas n'importe quel homme non plus, un homme qui a vaincu la mort. Dans un autre écrit de Paul, nous lisons, Jésus a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Cephas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Donc l'apôtre Paul sait de quoi il parle. Il a vu la montée de la foi chrétienne être inexplicable sans le bien fondé historique de cette résurrection historique, cette résurrection corporelle de Jésus. Elle fonde la foi des apôtres qui ne la nieront pas même face à la menace de la mort, même face à la mort. Si on veut tenir bon dans le Seigneur jusqu'à la fin, on doit fixer nos yeux sur Jésus. On doit espérer en lui. Et on peut espérer. Peut-être pour certains, ça a l'air trop facile. Mais en fait, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut croire Dieu sur parole. Chose que l'homme trouve toujours difficile. Mais Dieu a donné son Fils. Jésus est justice de Dieu pour nous. La mort est morte pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Il y a plus que la simple matière où on naît, on vit, on meurt et plus rien. Ça, c'est peut-être l'air culturel que nous respirons. C'est déprimant. Et surtout, c'est faux. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus vit. Et Jésus revient. Et nous, on peut vivre ici-bas cette espérance joyeuse qu'un jour nous serons avec Jésus. Ressuscité corporellement avec lui. Rendu conforme à Jésus dans nos corps. Et cette espérance de Jésus, parce qu'on court vers lui, est basée sur Jésus aussi. Plus on le connaît, plus on réalise ce qu'il a accompli en notre faveur, plus on met notre confiance en lui, plus on l'aimera, plus on vivra pour lui, plus on espérera en lui, plus on parlera de lui. Donc peut-être cette espérance n'est pas encore la vôtre. Donc merci d'être là ce matin. Et si vous souhaitez, on pourrait en parler après, ou vous pouvez en parler peut-être avec d'autres. Leur poser la question, pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus? Pourquoi est-ce que vous croyez que cette foi est si bien fondée? Revenez, tout simplement, semaine après semaine. Mais peut-être que vous voulez, peut-être ça fait un moment que vous êtes là, vous cheminez avec nous, et vous voulez mettre votre confiance en Jésus, votre espérance en lui. Dites-le-lui tout simplement dans la prière. Et rendez cette nouvelle foi, cette nouvelle espérance publique, visible, par le baptême. Ce baptême parle de manière symbolique de notre union par la foi à Jésus. Notre union dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Je serais ravi d'en parler avec vous. Prions que Dieu nous remplisse tous d'une connaissance plus approfondie, plus juste de Jésus-Christ. Pour que nous puissions dire avec Paul, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain, et ainsi tenir bon jusqu'à la fin. Je vous invite à la prière. Merci à notre bon Père Céleste pour ton Fils. Merci à d'avoir envoyé Jésus. Merci de nous avoir donné Jésus comme sacrifice propitiatoire. Ce sacrifice qui te rend propice, qui nous permet de venir comme des enfants dans ta présence, sachant que nous sommes pleinement acceptables, agréables à tes yeux, en vertu de Jésus, en vertu de sa justice. Nous sommes là devant toi, Père, et nous voulons te demander d'augmenter notre amour pour Jésus. Augmente notre intelligence, notre connaissance de Jésus, pour que nous puissions espérer davantage en lui et tenir bon jusqu'à la fin. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.